Bonjour à tous, bienvenue à l'heure des sages. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Hayem, un jeune homme philosophe, engagé, amoureux de la vie et attentif à sa transformation intérieure. Alors que nous traversons une crise économique majeure, Étienne Hayem décide de faire sa part de colibri en s'attelant à un sujet qui touche tout le monde, l'argent. Depuis octobre 2013, répondant à un appel à projet de la région Île-de-France, avec son équipe et des partenaires enthousiastes, Étienne Hayem se lance dans la création d'une monnaie complémentaire, le Simba. Convaincu que les citoyens et les entreprises ont leur rôle à jouer dans le développement et l'avenir de leur territoire, il crée une société coopérative pour, je cite, « permettre aux habitants de la région de reprendre le contrôle sur le pouvoir de l'argent et de décider collectivement de leur avenir. »
L'heure des sages.
Je suis né en 84, ce qui fait que j'ai 29 ans. Dans les faits importants, je dirais que j'ai perdu mon père à 17 ans. Et du coup, là, il y a eu une première faille dans mon histoire et une grande sortie de... Est-ce que c'est la béatitude ou le monde de l'enfant? Je ne sais pas, mais en tout cas, un réveil très profond. J'ai fait un parcours spé mat, etc. Je voulais être médecin comme papa, mon père était dermatologue. Et donc, après sa mort, je suis allé en médecine. Et puis, j'ai commencé à faire médecine, c'était génial, sauf que je n'ai pas bossé. C'était une psychologie concours dans laquelle il fallait quand même avoir que ça à faire. Et puis, je pars en école de commerce. C'est un nouveau monde, j'arrive à Paris. Et ces 5 ans d'école de commerce, ils sont entrecoupés par 3 semestres à l'étranger qui ont été vraiment des souffles. Mexique, ça va être un grand bol d'air et une découverte d'un monde qui est différent et qui marche avec un grand cœur ouvert, un pays qui est vraiment merveilleux. Ça a été vraiment un réveil profond à deux niveaux. Le niveau intellectuel, économique, si je peux dire, de faire mon étude sur l'inégalité de répartition des richesses. Et puis l'autre, c'est l'expérience. Quand on est parti en vacances avec des copains, on est arrivé à Oaxaca en 2006, en plein milieu de la révolution citoyenne. Des enfants qui mettent des pierres, des feux dans la ville. Et une heure après notre passage, il y a 3500 soldats qui arrivent. Et donc d'être arrivé à cet endroit-là, à ce moment-là, ça a été une prise de conscience de tous les trucs que je savais, de l'inégalité du monde, de l'injustice, mais que j'avais un peu fermé, parce que quand on est en école de commerce, quand on est un jeune bourgeois, quand on est français, européen, etc., il y a des moments où c'est un peu lourd tout ça. Et donc je valide ce que j'ai vu au Mexique en Argentine, en refaisant un autre semestre à l'étranger, et je vais faire une plongée abyssale, si je peux dire, vraiment au fond de... Mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde, quoi? Qu'est-ce qui bug? Qu'est-ce qu'on a oublié? Pourquoi on a autant de technologie? Pourquoi on a autant d'intelligence, autant de richesses en Europe? Et pourquoi on n'arrive pas à la partager? Pourquoi on n'arrive pas à respecter les limites? J'ai eu besoin de le vivre moi-même pour pouvoir le répondre à l'extérieur. La première réponse, c'est l'argent ne travaille pas. C'est vraiment de dire, on peut interdire la spéculation, on peut faire des petites règles, faire des trucs comme ça. Mais tant qu'on n'a pas changé le système profondément à la racine, l'argent c'est une convention, c'est un accord. Et donc il y a une idée préconçue qui, dans le capitalisme, en tout cas dans ce qui dit que l'argent travaille, qui nous a mis complètement dans le mur. Et l'autre réponse, et c'était quand j'étais en Argentine, où j'ai fait une plongée vraiment jusqu'aux abysses, où j'ai écrit plus de 20 articles sur mon blog en juillet 2008, pour expliquer la finance, en fait. Je voyais tous ces trucs et puis je me rendais compte que personne ne captait vraiment et donc je me faisais l'intermédiaire et j'envoyais ma colère contre le monde et puis à un moment je me suis pris le boomerang, je me suis rendu compte que change-toi et le monde changera. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai fait sauter tout mon système de croyances. Voilà, je suis arrivé au bout de ces 5 jours en me rendant compte que mon père était mort d'un infarctus, que mon oncle, professeur de physique, il était devenu relativement fou et que si je trouvais pas rapidement quelque chose, j'allais y rester, quoi. J'allais rester à l'autre bout du monde avec la réponse magique à toutes mes équations, mais pas vraiment de solution pour aller mieux et être bien dans ma peau.
Il y a une phrase que tu as notée sur ton site. J'apprends à vivre en cohérence avec l'univers. Mon action est guidée par la qualité des relations que je crée. Je me sens reliée et partie intégrante de ce grand mystère qu'est la vie. Tu te sens guidée par la vie et l'univers?
Plus j'écoute, plus j'entends. C'est ça ce que j'ai découvert à ce moment-là. Alors j'ai découvert qu'il y avait de l'invisible, qu'il y avait de l'énergie, qu'il y avait le qi gong, le tai chi, toutes ces choses-là que j'avais reçu quand j'étais jeune par les films sur Little Buddha, sur le Tibet, etc. Et c'est à ce moment-là où je suis allé chercher un endroit pour apprendre à me défendre. Au départ, c'était vraiment dans une parano. Et je suis arrivé chez une famille qui pratiquait le Tao. Mais je ne savais même pas que je cherchais le Tao à ce moment-là. Et j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de prendre des drogues, je suis devenu végétarien. Je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre.
Je trouve que tu incarnes beaucoup la phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
J'essaye au mieux d'être en cohérence. Et de toute façon, si je ne le fais plus, les événements me le rappellent directement. J'ai une part de l'héritage de mon père. J'ai eu 13 000 euros quand j'étais en fin d'école de commerce. La première chose que j'ai fait, c'est rembourser la partie de mon prêt que j'avais. Et je me suis dit, OK, on est en 2008. Il y a une énorme crise qui arrive devant. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Où est-ce que je peux l'investir? Je n'avais pas envie, évidemment, de le mettre dans l'or ou l'argent ou les métaux précieux. Je me dis, ça, c'est réagir aux peurs. Et j'ai investi en moi. Et je me suis formé, justement, donc au Wu Tao, à la transanalyse, à toutes ces choses-là, à l'intelligence collective. Et j'ai pris le temps, en fait. Et la voie de la conscience... Sans en parler avec des artifices poète-poète ou je sais pas quoi, c'est monstrueusement beau. C'est flippant, mais c'est l'autre choix qui est difficile. C'est de ne pas vivre qui est difficile. Celui-là, il est challenging parce qu'il demande de se dépasser tout le temps, parce qu'une fois qu'on a décidé de voir, on peut plus faire retour en arrière, on peut plus fermer les yeux et dire c'est les autres, c'est plus possible. Mais ce que je suis capable de ressentir aujourd'hui en termes d'émotion, en termes d'intelligence collective quand on est dans un groupe, de sentir le cercle, de sentir qui se sent pas bien, quelle émotion c'est, etc. Par miroir, de savoir identifier les miennes. Et ça, c'est une liberté que je ne concevais pas, que je ne savais pas que ça existait. Je l'ai peut-être su en tant qu'enfant dans mon monde imaginaire que je veux retrouver profondément. Je pense que c'est ce monde de coopération qu'on est en train de construire et qu'il manque plus grand-chose avant qu'il se révèle et qu'on voit qu'il est déjà complètement là. Mais cette voix de la lumière, si on peut dire, ou en tout cas de la conscience, parce qu'elle demande de retourner voir les ombres très régulièrement, il y a tellement de cadeaux. Elle fait peur, elle est difficile au début. C'est la voix du chevalier, c'est la voix du courage et du cœur. Et quand on coopère avec la vie coopère avec nous, et à ce moment-là, on n'est plus jamais seul. Je ne suis plus jamais seul. J'ai une reliance. J'ai un nombre incroyable de personnes en qui j'ai confiance, avec qui je peux créer, avec qui je peux travailler. Et ça, c'est une force, c'est une beauté, c'est une joie. Je me suis spécialisé à un endroit où je savais qu'il y aurait besoin dans ce truc de me dire « Ok, je crois plus à l'argent, j'ai compris que tout ça, c'est de la foutaise, on s'en fout en fait. C'est pas ça qui est important. » Du coup, j'ai mis toute mon énergie pour aller le plus profond possible sur un des trucs les plus profonds. Et quand je dis ça, je sais que ce n'est pas l'argent seulement la solution. On vient bien de parler de conscience et c'est les deux. Et si on change l'argent sans changer de conscience, on n'aura rien changé du tout. Mais en allant sur l'argent, j'ai choisi un sujet qui touche tout le monde.
Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet concernant les monnaie complémentaire et le Simba dont tu es l'un des initiateurs. J'aimerais que nous exposions brièvement un petit état des lieux du système monétaire actuel que Bernard Litter, qui est un grand spécialiste des questions monétaires internationales, présente comme une monoculture monétaire et qui est d'après lui intimement liée au cycle récurrent de crise que nous traversons depuis 40 ans. Est-ce qu'on peut se faire un petit topo là-dessus ?
Et même plutôt que de dire depuis 40 ans, je dirais depuis 5000 ans. Parce que ça s'est accéléré ces derniers temps, mais on a toujours connu le problème. On a un souci avec la monnaie. Parce que c'est un truc qui n'existe pas. Parce que c'est une invention humaine. On est les seuls êtres à avoir la monnaie. Et c'est un accord social, symbolique. Et c'est une représentation de la richesse, mais ce n'est pas la richesse. Et du coup, la monnaie... vient tous nous toucher à un endroit différent. Quand il dit monoculture, c'est parce qu'en fait, il fait le point commun entre le capitalisme et le communisme, et ils disent qu'on a fait des tonnes de bouquins sur les différences, mais le point commun, c'est qu'ils ont un seul système monétaire. Or, il est possible d'avoir plusieurs systèmes monétaires. Et Bernard Lietard fait la comparaison avec les systèmes complexes. Il dit un système complexe, que ce soit une forêt, une flaque d'eau, un réseau informatique, pour qu'il soit durable, il faut trouver un optimum entre trois variables. D'un côté, l'efficience. Donc l'efficience, c'est un peu l'efficacité, c'est un peu ce qu'on connaît vraiment dans le paradigme dominant aujourd'hui. Et de l'autre côté, un mélange de deux variables qui sont l'interconnectivité et la diversité. Et donc, du coup, dans une forêt, si on veut qu'une forêt perdure et dure très longtemps, il faut un équilibre entre l'efficience et, de l'autre côté, la diversité et l'interconnectivité. La diversité, ça veut dire d'avoir plein de sortes d'arbres différents. L'interconnectivité, c'est le symbole de l'écureuil qui va passer d'un arbre à un autre, qui va faire des liens, etc. Et l'efficacité, bah, c'est ce qu'on imagine comme productivité d'une forêt. Tous les systèmes aujourd'hui fonctionnent sur le même principe, qui est une seule monnaie, même si elles sont différentes et qu'elles ont des noms différents. C'est un seul principe de monnaie, c'est l'argent travaille. Et on a très peu de monnaies qui sont le système inverse, qui dit l'argent ne travaille pas, l'argent fond. Bernard Liétard nous parle d'un équilibre dans son livre Au cœur de la monnaie. Il nous dit finalement on a des monnaies yang parce qu'on a une vision de la société yang, c'est-à-dire qu'on est dans une domination du masculin, des valeurs masculines sur les valeurs féminines. Et ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est le retour du féminin, mais non pas dans une domination à son tour du masculin, mais dans un juste équilibre. Et donc le retour des monnaies yin, la renaissance des monnaies complémentaires au niveau mondial, même si elles sont petites, c'est pas important qu'elles soient petites, c'est pas grave qu'elles soient petites.
Les monnaies complémentaires seraient des monnaies yin.
Tout à fait. Pour lui, ce sont des monnaies yin, et elles contribuent, elles accompagnent ce rééquilibrage des valeurs entre des valeurs paternalistes et des valeurs plutôt féminines, on dit des valeurs féminines, en tout cas des valeurs qui représentent le calque du féminin ou du yin. Donc qui est plutôt la reliance et plutôt que la séparation ou la performance, si je fais très court.
Ce qui explique que notre système n'est pas stable.
Ce qui explique que notre système n'est pas stable et ce qui explique que, oui, on a eu plus de 400 crises dans les 25 dernières années d'après la Banque mondiale, des crises monétaires, des crises bancaires, des crises économiques. C'est normal. C'est quand on a un système qui n'est pas réglé sur les lois de la nature, bah on décale à chaque fois et ça pète et on recommence et on croit que ce sont des personnes alors que c'est un problème de système. Voilà ce qui nous attend, c'est un changement de système. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ce que dit Bernard Liétard, qui est intéressant aussi, c'est sur 5000 ans d'histoire, il n'a jamais vu un système monétaire naître avant que le précédent ne se soit éteint. Et quand il dit que le précédent se soit éteint, généralement, ce n'est pas dans la douceur. C'est-à-dire, généralement, le système meurt, c'est le chaos, et puis après, on rééchange des clopes ou du troc, et c'est la débrouille, et puis après, on recommence, etc. Alors, ça fait toujours un peu peur de se dire ça, mais ça fait aussi partie de l'histoire. Si on ne veut pas répéter l'histoire, c'est à nous de créer, c'est à nous d'agir et de nous lever et de dire « Ok, alors comment on fait pour ne pas passer par là ?» Je crois que c'est ça le challenge aussi, l'énorme challenge. Et là où il y a une peur monumentale dans la société, c'est on n'a pas envie d'aller au chaos. Comment on peut faire une révolution non violente ? Comment on peut accompagner ce mouvement sans aller zigouiller tous les dirigeants, etc. parce qu'ils ne sont pas plus responsables que nous. Nous leur avons donné ce pouvoir, nous nous sommes écartés de ce truc-là et puis maintenant, un peu comme d'hab, on dit « C'est eux les coupables ». Mais on est mutuellement coupable et je pense pas que quand on soit riche, on soit fondamentalement plus heureux que celui qui est pauvre. Yeah.
say is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving them away, away.
Les monnaies complémentaires arrivent au bon moment, mais ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe. On compte même plus de 5000 initiatives par le monde. Et je pense notamment à il y a quelques exemples, le VIR en Suisse, le système du SEL en France. Qu'est-ce qu'elles ont de différent finalement ces monnaies? Des monnaies nationales on va dire, qu'est-ce qu'elles apportent que les monnaies nationales n'apportent pas?
Elles sont proches des humains, elles sont locales, donc elles sont limitées sur un terrain qui reste une échelle qui reste à peu près humaine. Les monnaies locales complémentaires, elles remettent dans ce challenge du local et global, elles remettent vraiment la priorité sur densifier les flux locaux, recréer du lien et se refaire confiance avec le voisin, avec les gens avec qui on habite le même territoire.
Au-delà de l'économie locale.
De recréer la confiance pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire l'économie locale. Souvent, elles sont construites, sont des processus citoyens. Donc, elles nous obligent à nous faire confiance. Sans papa, sans maman, sans la politique, sans les banques, sans Dieu, sans je sais pas quoi. Est-ce que les uns avec les autres, on est capable de parler et de trouver un accord pour une monnaie qui nous rassemble malgré les intérêts individuels divergents qu'on a? Et donc, c'est ce travail-là qui est assez fondamental et qui est assez long parce qu'on va aller travailler les peurs, parce qu'on va aller travailler la confiance. C'est là où l'intelligence collective et comment on prend les décisions ensemble sont des questions pour moi essentielles dans ce chemin-là. Sinon on fait pas, on n'a pas été au fond. J'ai étudié la finance, donc j'aurais pu aller faire trader pendant 5 ans, gagner énormément d'argent et après me mettre en monnaie complémentaire. Mais c'était contraire à mes valeurs. Donc j'ai choisi d'être à contre-courant dans un truc où effectivement monétairement j'étais pauvre. Mais c'était une expérience très riche. D'être contre le courant et de me dire mais c'est normal, on est contre le courant et c'est là où ça demande du courage.
Là aussi tu as expérimenté un autre extrême finalement.
Oui, c'est clair. Et c'était important de le vivre, de pas juste en parler et de voir que j'étais en bonne santé, que j'avais pas un rond, mais que j'avais des réseaux et des amis et que je travaillais sur des choses qui me rendaient profondément heureux, qu'en n'ayant pas d'argent j'ai dû trouver des formes d'échange et de se rendre compte qu'en fait quand je dis j'ai pas d'argent, j'ai énormément de richesses. Et mes talents et mes compétences que je ne vois plus comme des richesses. S'il n'y avait pas l'argent, ce serait beaucoup plus simple.
C'est pas une forme d'abondance pour toi, l'argent?
Il y a quelqu'un qui dit, à partir du moment où il y a de l'argent, il n'y a pas de communauté. Et le métal argent, alchimiquement, au niveau alchimique, coupe les liens.
C'est pas une forme d'énergie qui circule?
C'est ça qui est complexe, c'est que c'est à la fois une énergie... Et à la fois, c'est un système. Et aujourd'hui, je n'arrive pas encore à résoudre les deux. Je vois parfois l'un, parfois l'autre. Je vois bien que c'est une énergie. Et dans ce sens-là, l'argent n'est pas le problème, mais c'est ce que j'en fais. Donc, je peux avoir beaucoup d'argent et la donner et être heureux. Et c'est magnifique. Mais si je vois l'argent système, la façon dont il est créé, le crédit, il y a un problème à cet endroit-là. Il y a des règles qui ne sont plus du tout adaptées. Donc, on a à la fois une énergie qui doit circuler, mais dont les règles... et dont la façon dont elle est créée, la façon dont elle doit circuler, sont complètement dénaturelles, je ne sais pas comment le dire autrement.
Pour c'est lié moi, à ce que la personne porte en elle.
Je ne saurais pas trop dire, c'est une dichotomie que j'ai, ce que je retrouve souvent. Il y a des moments où c'est évident pour moi que l'argent est une énergie, et il y a des moments où, quand je la vois en argent système, c'est une énergie qui est inégale. Voilà, j'oscille entre les deux, je n'ai pas résolu aujourd'hui, et ça je pense que c'est vraiment mon système de croyance, de valeur personnelle. Ce que je sais, c'est que plus on avance sur le Simba, et plus c'est plus de l'argent, et que même le mot argent n'est pas juste, parce qu'il nous rappelle un objet qui serait détaché de moi et qui s'est séparé de moi et qui aurait de la valeur. Alors que quand on parle vraiment de monnaie et d'argent, on parle d'une unité de compte, une transparence sur ce que j'ai donné au collectif et une transparence sur ce que j'ai reçu du collectif. Alors le Simba, c'est une monnaie, mais est-ce que le terme monnaie est juste? C'est un projet de coopérative pour créer un réseau de confiance. Le but dans ce réseau de confiance, c'est de pouvoir échanger des biens, des services, etc. entre entreprises, organisations, en suivant un calque de valeurs qui s'appelle l'économie symbiotique. L'économie symbiotique nous dit une chose, c'est qu'une économie symbiotique existe déjà et sont des modèles qui régénèrent le milieu dans lequel elles s'inscrivent. Et donc ça va être des modèles qui vont générer des externalités positives sociales, environnementales et économiques. Donc Simba, le but c'est de créer une coopérative dans laquelle nous sommes collectivement responsables de ce nouveau jeu, de ces nouvelles règles. Pour ça on a un pilier qui est la gouvernance partagée, qui est très important pour dire comment, si ce sont des humains qui décident, comment on décide.
Juste peut-être rappeler que vous avez répondu à un appel à projet de la région d'Île-de-France.
Tout à fait. En mai l'année dernière, la région Île-de-France a fait un appel à projet dans la rubrique économie collaborative.
Qui est extraordinaire qu'une région lance ce type de projet. Est-ce que pour toi c'est extraordinaire justement? Comment réagissent justement les politiciens par rapport à ce type de projet? Est-ce que c'est innovant?
C'est complètement innovant et c'est même ça, des dispositifs socialement innovants. C'était ça ce qui était demandé. Et c'est à ça qu'on a répondu, notamment avec la gouvernance et l'implication citoyenne à différents niveaux. Voilà. Pour moi, c'est vraiment génial que les régions s'y mettent, que les départements s'y mettent et que ce ne soit pas juste les citoyens ou juste les entreprises, mais que ce soit bien tous ensemble. Jean-Marc Ayrault a initié aussi un projet de monnaie complémentaire à Nantes avant de devenir Premier ministre. Il y a déjà une monnaie citoyenne à Nantes, initiée par des citoyens, et en parallèle, il y a une monnaie de la ville. Donc on est en train de les voir fleurir, on est encore à la fois au tout début, elles sont encore fragiles et à petite échelle. Et quand on dit la monnaie est un outil, la question c'est, on va faire une monnaie pour quoi? Et donc nous en Île-de-France, c'est bien pour développer la richesse économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Île-de-France, pour recréer de la confiance, pour recréer du lien, pour régénérer le tissu dans lequel s'inscrivent nos organisations grâce à l'économie symbiotique. Dire « oui, mais le sol violette, c'est une bouse, ça ne marche pas parce qu'il n'y a que 1300 personnes qui l'utilisent sur une ville de je ne sais pas combien de millions d'habitants. » Et donc ce qui compte pour une monnaie comme le sol violette, qui a voulu mettre la réappropriation citoyenne de la monnaie, entre autres, comme point important, c'est combien il y a de citoyens qui sont capables de l'expliquer. Combien de décisions ont été prises collectivement entre des parties prenantes qui ont des intérêts complètement divergents. Ça, c'est intéressant. Et là, le sol violette est un succès complet. Mais de vouloir mesurer avec les mêmes outils le PIB, on revient avec notre gros outil PIB, là, et on repasse dans un côté mental, et on va observer, on va dire, ah oui, non, c'est que, je sais pas combien, 40 000 sol violette échangés, et ils circulent plus vite, ok, ça fait 40 000 fois 3, 120 000, wow, c'est petit, quoi.
C'est ce qui fait que, justement, les monnaies complémentaires restent un peu marginal.
Ben, c'est là où je refais le lien avec la conscience, c'est de dire comment on mesure 40 000 sols violettes qui créent de la conscience, qui sont passés trois fois entre les mains d'une population d'environ 1300 personnes et du détonateur et de l'explosion médiatique que ça a généré dans toute la France et que ça génère dans le monde. C'est quoi le choc de conscience que ça apporte en comparaison avec les chiffres? Et là, c'est pas mesurable. Notre système monétaire, nos outils de mesure aujourd'hui sont juste limités aux richesses échangeables. Et donc c'est là où notre système de rareté nous met dans effectivement un manque d'indicateurs. Et du coup, c'est ça qui serait important pour moi, c'est de trouver des indicateurs qui donnent un miroir, qu'on ne dise pas aux gens ça c'est interdit parce qu'on sait que vous allez le faire si on vous connaît, quoi. On sait que dans le fond vous allez gruger. Donc comment on fait pour donner un maximum de liberté et un maximum d'informations, de faire monter justement des indicateurs intelligents? Et je pense qu'à ce niveau-là, Isabelle Delannoy et le modèle de l'économie symbiotique apportent des réponses qui peuvent être fondamentales pour changer de perspective et pour dire justement comment on fait pour voir les externalités positives. C'est ça qui est l'aventure avec le Simba aussi, c'est que tout n'est pas designé.
Justement, vous en êtes où avec la création du Simba?
On a posé le dossier à la région en mai l'année dernière. Le dossier a été validé en octobre. On est en train de créer la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, pour avoir les statuts légaux, pour pouvoir faire un appel aux sociétaires. L'objectif pour cette année, il y en a deux. Le premier, c'est de réunir 2014 personnes qui y croient. Et je suis prêt à mettre 100 euros, c'est la valeur d'une part, pour avoir une part dans cette société. Donc c'est un instrument financier. Paradoxalement, c'est quand même assez fou, mais c'est parce qu'on est dans le système et dans la légalité. Donc je prends une part et je donne de l'énergie à ce projet. Je recevrai des dividendes, des intérêts, etc. C'est assez limité puisque c'est une SIC, donc il y a des règles qui sont assez claires à ce niveau-là. Ça nous évite aussi de devenir fous et de penser que le retour qu'on aura, ce sera un retour en argent. Je pense que le retour, il sera dans bien des formes, mais l'argent ne sera pas la plus importante.
Vous avez imaginé ces formes?
Ben, la qualité de vie. dans le fait d'avoir un réseau avec des gens qui se parlent, dans le fait d'avoir une vie démocratique au sein de la SIC, le fait qu'il y ait des entreprises vertueuses qui ont de la trésorerie. Si je fais des choses qui ont du sens et qui créent des externalités positives, en plus je suis valorisé, en plus je suis reconnu et j'ai de la monnaie pour ça. Donc rien que ça, je crois que ce serait assez merveilleux. Et du coup, le retour sur investissement que j'ai, moi, Étienne, ou nous, futurs sociétaires, c'est pas de l'argent, c'est une région qui prospère. Mais les business angels, par exemple, qui cherchent des startups et des investissements risqués, viendront pas chercher ça, parce qu'on apporte un retour en nature, qui est des humains qui sont heureux. Et ça, effectivement, c'est assez mal payé, mais ça compte beaucoup plus que 2 ou 3% sur les parts.
Ça se fait dans le respect de la société et aussi de l'environnement, j'imagine que vous avez tenu compte de ça.
Là, c'est le travail d'Isabelle Delannoy pour le respect de l'environnement, ouais. Et pour le respect de la société, il y a tout le travail légal pour qu'on fasse tout ça dans la légalité. Et le travail humain avec la gouvernance, avec ce que fait Olivier Pastor et notre partenaire de l'Université du Noux, qui est une association de Chambéry. Comment on fait pour que dès maintenant, dans la construction du Simba, on ait cette douceur, cette osmose, ce bonheur, cette joie de se retrouver, de passer du temps ensemble, de s'écouter, de se respecter. Ce que je ressens déjà moi dans les soirées, ce que je ressens déjà dans les différentes réunions qu'on a, j'ai l'impression de vivre mon rêve, je vis mon rêve. Et derrière, la stratégie, c'est de dire on va aller chercher 1000 entreprises pour commencer, 1000 organisations.
Différents domaines.
Il faut un peu de tous les métiers. Il faut quelqu'un qui travaille sur l'énergie, quelqu'un qui travaille sur la terre, des métiers d'artisanat, des métiers de service, des métiers de transport. Il nous faut tous les... ou au moins un représentant de chaque. On pourrait commencer sans avoir tout, mais il nous faudra boucler la boucle assez rapidement parce que c'est un flux. Et si on n'a pas bouclé... une des métaphores que j'utilise, c'est comme un chapiteau. On a besoin de tous lever notre poteau en même temps. Donc il nous faut un collectif qui, collectivement, est prêt à lever le chapiteau. Pour initier cette dynamique, ça demande de la confiance, et ça demande masse critique et diversité. Et du coup, comme on est à l'échelle de l'Île-de-France, qui est une grande région, qui est la plus grande région de France, avec 38% du PIB, si on prend cet indicateur.
C'est un sacré challenge, la région Île-de-France.
Ben ouais.
Vu la taille.
Et en même temps, c'est là que j'ai tout mon réseau, c'est là qu'Isabelle Delannoy a tout son réseau, c'est là que CitizenCan est implémenté, c'est là que nous vivons. Et donc, je ne peux pas développer une monnaie à un endroit où je n'ai pas de réseau. La question, c'est est-ce que les habitants de la région vont répondre ? Et donc, pour ça, il nous faudrait idéalement 1000 entreprises, 1000 organisations pour commencer, pour avoir une masse critique qui nous permette de tester le réseau avant de lancer. Voilà, on sait par expérience que les barters, ou en tout cas les systèmes de crédit mutuel, ce qui est notre cas, sont rentables au bout d'un an. Donc c'est vraiment la première année qu'il faut passer. Mais après, c'est une logique de plateforme. Et c'est super important pour nous d'avoir la SIC, parce que ce pouvoir, il faut qu'il soit partagé. Moi, je ne veux pas de cette responsabilité seule. Et c'est pour ça qu'il y a une SIC, et c'est pour ça qu'il y a une gouvernance, et c'est pour ça qu'il y a Olivier Pastor, et c'est pour ça qu'on a besoin, moi j'ai besoin que les personnes s'engagent et deviennent responsables. Que certaines prennent 100 euros et suivent le truc de loin, ok, mais que d'autres co-construisent et comprennent que, bah comme je disais, ce monde, on est créateur et on est co-responsable de ce monde. Je veux bien faire ma part de colibri et prendre les rênes et initier ce projet. J'ai besoin d'aide. Et là, il y a vraiment un appel à...
C'est un bel appel à l'aide.
Ouais, et c'est un appel qu'on va sortir officiellement avec des outils de communication et une campagne, alors c'est pas du crowdfunding, mais un appel aux 2014 âmes. Il y en a déjà un paquet qui nous ont répondu. Il y en a déjà qui ont envoyé leur chèque alors que la SIC n'existe pas. On a déjà 28 chèques de personnes qui nous font confiance et qui ont dit bien sûr et merci d'exister, etc. Qui ont écrit pourquoi ils nous suivaient, pourquoi ils y croient, pourquoi ils en ont envie. Et c'est un projet magnifique. Et
qu'est-ce qui les pousse à vous soutenir, à participer à l'aventure ?
Eh ben, il y a plein de raisons différentes. Il y en a qui y croient, il y en a qui aiment bien l'équipe, il y en a qui disent que c'est un projet qui mérite de vivre, il y en a qui disent qu'ils auraient aimé le mettre au monde et du coup qui sont ravis que ce soit nous qui nous en occupions. Donc il y a vraiment des raisons et des raisonnements différents. Il y en a beaucoup qui disent parce que c'est l'heure et parce qu'on a besoin d'un système qui soit avec nos valeurs.
L'euro peut être remplacé par les monnaies complémentaires à plus long terme. Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est des questions super difficiles. C'est des questions qu'on appelle l'anticipation politique. Bien heureux celui qui peut lire le futur. À terme. Mais peut-être que c'est à 200 ans ou à 500 ans, il n'y a plus de monnaie. Pour moi, c'est clair qu'il n'y a plus de monnaie parce que ça freine tout. Quand tu veux faire un projet sans monnaie, C'est beaucoup plus fluide que faire un projet avec monnaie. Souvent, spontanément, bénévolement, on va faire des trucs incroyables. S'il avait fallu de l'argent, on serait rentré dans des trucs à la con qui nous auraient pris un siècle à décider et qui auraient mis des guerres d'ego et de valeurs, etc. Il y a déjà la confiance, ne foutez surtout pas de monnaie. Ce qui est sûr par rapport à l'euro, c'est qu'il ne peut pas continuer comme ça. Comme le dollar ne peut pas continuer comme ça, et il y a 3 ou 4 grands switches inévitables à faire passer. 1, c'est la création monétaire doit revenir dans le domaine public. 2, on doit arrêter les intérêts. 3, on doit remettre les dettes à zéro. Mais ça, c'est pas juste en France, c'est partout. Mais je ne sais même pas si c'est pertinent et si c'est suffisant de remettre ça si on n'a pas changé ce que je viens de dire sur l'offre et la demande, sur l'économie de marché. Si on garde la même mentalité et qu'on remet le jeu à zéro et qu'on change le pouvoir, bah ce ne sera plus les banquiers qui auront le truc, on aura évolué, ce sera revenu dans les mains de l'État et machin. Donc, on a avancé d'une case, on a guéri 2 trucs, mais on n'a pas vraiment avancé. Et donc,
on reste en haut. Il faudrait que ça descende dans la base.
On reste en haut. Et pour que ça descende dans la base, il y a des solutions type le peer-to-peer, ce que font les SEL quand il y a des gens qui s'organisent spontanément, etc., et qui créent leur système, on est là-dedans. Moi, ce que j'ai vu, c'est le crowd-crediting, ce que j'ai appelé le crowd-crediting, ou le crédit citoyen, c'est de dire, bah, finalement, il y a une nouvelle masse monétaire qui est créée, et cette responsabilité, elle devrait être divisée par tous, à tous. Donc peut-être qu'en revenu de base, j'aurai 1000 euros, ou 1000 simba, ou 1000 je sais pas quoi, et puis j'aurai 150 simba, ou crédit simba que je ne peux pas utiliser pour moi. Un peu comme un budget collaboratif, un peu comme un budget participatif, et du coup, chaque citoyen de la région, chaque citoyen du monde reçoit cette part, et il ne peut pas l'utiliser pour lui, et il doit choisir parmi les projets qui l'entourent, à quel projet il la donne, qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. On leur donnerait concrètement la part de la création monétaire qui leur revient, puisqu'ils sont utilisateurs du système, et donc ils auraient leur part de responsabilité, pour dire, bah oui, moi mes 150 crédits Simba, je vais les donner à mon cousin qui est en train de retaper sa grange, et Greenpeace, parce que j'adore leur truc, et puis je vais en passer encore une petite part pour la crèche de mes enfants, parce que c'est ça qui compte pour moi. Donc ça, c'est quelque chose où on peut changer l'euro.
Comment imagines-tu notre avenir, hein, de la Terre, de notre société?
Beau, comme notre présent. Je suis super confiant. En fait, venant d'où je viens, avec tout ce que j'ai expérimenté et tout ce que je découvre sur la vie, chaque jour est une bénédiction. Chaque jour est une nouvelle découverte, de voir le nombre de personnes qui m'accompagnent sur Simba, de voir le nombre d'initiatives similaires qui existent dans le monde. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va se passer, ce changement, cette transition. On est déjà complètement dedans et en même temps, ce n'est pas encore visible. Je ne sais pas à quel moment, comment l'enveloppe va se déchirer. On va voir qu'en fait, tout est déjà installé derrière. C'est-à-dire pendant que le...
C'est ça qui va être merveilleux.
Ouais, j'ai un frisson quand tu dis ça. C'est déjà merveilleux de le construire, de l'expérimenter et de le vivre dans cette vulnérabilité. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir que le Simba va marcher. Je peux offrir l'espace pour qu'on puisse le construire. Je suis en train d'y mettre toute mon énergie et je fais tout ce que je peux pour que ce soit le plus beau possible. Évidemment, il va y avoir des secousses. Mais l'humanité est en train de grandir. Et je crois que c'est ça aussi qui est en train de prendre forme, c'est toute la cohérence de ces mondes qui se relient. Moi, j'ai beaucoup navigué entre les mondes de l'open source, du bio. Je voyais les points communs, en fait. Je voyais le dénominateur commun dans tous ces groupes, alors qu'eux se voyaient en silo. Et c'est ça ce qui est en train d'apporter le Simba. C'est la cohérence, le réseau souterrain qui permet d'avoir une cohérence et une solidarité entre les initiatives.
Ce que je ressens, c'est que tu as une grande confiance aussi en l'être humain.
Ben, on est des dieux. Et j'ai une confiance infinie en l'être humain. Pourquoi ? Parce que c'est la conscience qui est derrière. Et la conscience, c'est la vie et qu'on en est tous habités. On est à la fois faible et fragile et tout petit dans ce cosmos et par rapport à la nature. Et en même temps, on fait partie intégrante de ce grand tout. Donc j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ma nature et j'ai confiance dans ce grand tout. Donc oui, j'ai confiance dans chaque être humain. Et c'est ça, je crois, dont le monde a besoin, qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on ait confiance en l'autre.
Faire donner sa propre valeur à l'autre, quelque part. Ou lui révéler.
À soi, à l'autre, toujours. Hein. L'un et l'autre, à soi, à l'autre et à l'humanité dans son ensemble, les trois. Moi, l'individu, l'autre, mon miroir, et trois, le tout, notre humanité. non séparée de du monde, de la nature, de l'univers, de la conscience, de la vie, avec un grand V.
L'heure des sages.